Vision.
Bonjour et bienvenue dans Babylone, au croisement des savoirs, des langues et des cultures. Destination, le village de Torbel dans le Haut-Valais, étudié par Elinor Ostrom, première femme à être récompensée en octobre dernier par le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la gouvernance économique. Alors Jean-Marc Falcombello, tout cela méritait bien une petite excursion à Torbel.
Et oui, effectivement, parce qu'à partir de Torbel en fait, et d'autres études de cas, Elinor Ostrom a le mérite d'avoir mis le doigt sur un mode de gestion antique qui pourrait bien préfigurer de nouvelles formes d'économie dont nous risquons d'avoir besoin dans les temps futurs.
Avec Babylone, nous partons donc en quête de la réalité actuelle de la gestion des biens communs dans l'arc alpin. Une proposition de Jean-Marc Falcombello, Nicole Corpato, Didier Rossa pour la réalisation du reportage, Bruno Seriba est aux manettes et Nicole Duparc au micro.
Le prix Nobel d'économie est allé à Elinor Ostrom. Elle est américaine, mais son sujet de recherche est suisse. Elle prend comme exemple la gestion des alpages dans le village de Torbel.
Pour la prix Nobel, cette mini-démocratie évite une surexploitation des ressources.
Le règlement concernant l'alpage est pratiquement le même depuis 100 ans pour bien des aspects et nous sommes fiers de pouvoir travailler toujours avec les mêmes moyens ici à Torbel.
Le conseil communal a décidé que nous allons une fois l'inviter personnellement.
Il songe même à octroyer la bourgeoisie d'honneur à Elinor Ostrom.
C'est vrai qu'en écoutant cet extrait du téléjournal du 10 octobre de la TSR, on pourrait croire qu'Elinor Ostrom est allée elle-même à Torbel pour mener ses études sur la gestion commune des biens, études que l'on retrouve dans son dernier ouvrage « Governing the Commons » et qui ont été couronnées de succès avec l'attribution du prix Nobel d'économie 2009. Or, il n'en est rien, Jean-Marc Falcombello, vous avez mené l'enquête.
Et c'est vrai qu'il s'agit en fait d'un raccourci médiatique. En réalité, Elinor Ostrom a passé en tout et pour tout une journée à Torbel. D'ailleurs en compagnie d'Emmanuel Reynard, géographe que nous allons entendre dans ce documentaire. Mais malgré tout, son mérite reste entier. Car s'appuyant sur les travaux d'un ethnologue américain réputé, Robert McNetting, qui lui a séjourné près de 2 ans à Torbel, produisant d'ailleurs une œuvre de très grande qualité, autant comme ethnologue de terrain que comme historien, et sur d'autres travaux aussi, menés de par le monde dans des sociétés traditionnelles, Elinor Ostrom a mis en évidence ce mode de gestion si particulier et ancestrale, que l'on retrouve dans tout l'arc alpin et qui ouvre effectivement des pistes très intéressantes pour le futur. Une sorte de voie du milieu entre capitalisme pur et dur et étatisme obtus, sans pourtant tomber dans les excès du collectivisme.
Voilà, donc gestion des biens communs, ça n'implique pas forcément une forme de communisme ni de collectivisme, vous l'avez dit Jean-Marc.
Non, effectivement. Et c'est ce que vous allez pouvoir constater par vous-même en écoutant ce documentaire qui va nous faire aller des Bisdaïens avec Armand Ducey, historien local, au village de Torbel, avec Armin Carlen et sa fille, Ruth, en passant par le point de vue scientifique d'Emmanuel Reynard, géographe, Stéphane Narat, politologue, et Thomas Antonietti, ethnologue. Alors sans plus attendre, départ sur le terrain avec Armand Ducey au point de partage des eaux du Bisdaïen et du Bitaya, deux canaux d'irrigation pluriséculaires.
Alors voilà Armand Ducey, on est en route pour aller observer les lieux qu'on pourrait baptisé le partage des eaux.
Oui, ça fait penser à un échangeur, un mot nouveau, l'échangeur des autoroutes, c'est un peu la même chose, mais deux arrivées de deux bis différents, et ensuite la répartition dans toutes les directions.
On est en Valais, avec vous, et on est sur la commune de...
C'est sur la commune d'Aïen.
D'accord.
On va... voir l'endroit où arrive une branche du Bisdaïen, qui est un grand bis qui vient de l'Alien et qui arrose toute la contrée. Puis un autre petit bis qui s'appelle le Bitaya, qui est un petit bis qui vient de la Sionne. Et les deux bis couvrent à peu près la totalité du territoire de la commune d'Aïen pour l'irrigation.
D'accord.
Et à cet endroit, nous avons donc la répartition des eaux dans toutes les directions pour amener à l'endroit voulu.
Et on l'entend, on marche sur un joli petit chemin enneigé. Et nous sommes à 100 mètres
Nous sommes là, à une centaine de mètres, des répartiteurs qui s'appellent le répartiteur des Geuriers.
Des Geuriers ?
Des Geuriers.
Geuriers. Une pente assez douce, hein ?
Oui.
Des feuillus.
Maintenant, il y a beaucoup de feuillus, parce qu'il y a eu une régression des territoires, des prairies. Mais autrefois, à cet endroit, c'était uniquement des prairies.
Alors, Armand Ducet, on va reprendre la parole quand on y arrive, parce que ça monte quand même un peu, hein ?
Oui, oui. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne parle pas en marchant pour être efficace, mais là, vous me faites faire le contraire.
Alors, soyons efficaces et taisons-nous. Emmanuel Reynard, Stéphane Narat, qu'est-ce qu'on entend par ressources ?
Alors, ressources, c'est une portion de nature ou d'éléments de l'environnement, naturel ou des fois même artificiel ou construit, à partir duquel on peut développer des usages, où on a toute une série d'usagers qui font usage de ces ressources et qui, ce faisant, prélèvent un certain nombre de quantités, si on veut, de cette ressource. Donc un exemple typique, c'est la consommation d'eau potable, où vous avez un système de ressources avec un système hydrologique et un certain nombre d'usagers qui prélèvent de l'eau pour la consommation et qui peuvent, à un certain moment, entrer en rivalité avec d'autres types d'usagers, soit qui consomment également de l'eau potable, c'est une rivalité homogène, ou alors des situations de rivalité hétérogène où on a l'eau potable, l'usage d'eau potable qui rentre en conflit avec, en rivalité avec des usages par exemple hydroélectriques, d'irrigation agricole ou le service qui consiste à l'évacuation des eaux usées.
Oui, mais est-ce qu'il est évident pour tout le monde, par exemple dans le cas de l'eau, on pourrait dire l'air, on pourrait dire beaucoup d'autres choses d'ailleurs, est-ce qu'il est évident tout de suite dans le cas de l'eau que c'est un bien commun, que c'est une ressource commune ?
Non, c'est pas évident. Il faut comme condition que on ait un certain nombre d'usagers qui se retrouvent autour de la consommation de cette ressource et qui se trouvent à un certain moment en interdépendance entre elles. Et souvent aussi malheureusement en rivalité entre elles pour la consommation de ce bien. Donc il y a tout un processus effectivement de construction sociale d'une ressource.
Mais alors maintenant quand on parle de ressources des biens communs, c'est-à-dire la gestion d'ailleurs de ces biens communs, à quel moment le bien devient-il commun ? Parce qu'on pourrait se dire dans le cas de l'eau, tout le monde boit, donc de fait c'est un bien commun. Et pourtant il y a des propriétaires. Mais d'abord peut-être vous, Emmanuel Reynard, alors justement, qu'est-ce que l'on peut dire de cette notion commun du bien ? À partir de quand on le comprend comme commun ?
Une des caractéristiques centrales de ces biens communs, c'est ce qu'on appelle de manière un peu complexe la soustractabilité de la ressource. C'est-à-dire que lorsque un usager utilise cette ressource, il l'influence et elle n'est plus disponible complètement pour les autres usagers. Mmh. Et donc ça, c'est une des caractéristiques de ces biens communs. Pour l'eau, c'est exactement la même chose. À chaque fois, si on prend le cas aussi des alpages, à chaque fois, on soustrait une partie de la ressource qui n'est plus disponible pour les autres utilisateurs. Et l'autre caractéristique centrale, c'est la difficulté d'exclusion. C'est-à-dire qu'il est difficile d'empêcher d'autres utilisateurs d'avoir accès à la ressource. Ce sont un peu les deux caractéristiques centrales de ces biens communs, de ces ressources communes.
Alors, on grimpe à droite, là. La pente devient plus raide. Si le temps était clair, on verrait toute la vallée du Rhône depuis ici. Et là, on pénètre dans la forêt. Alors, je vous suis parce que le sentier est étroit.
Oui, il y a même plus.
On n'y passe pas à deux, hein ?
Il n'y a même plus de sentier.
Ah, il n'y a même plus de sentier, d'accord.
Effectivement.
Oui, on devine deux amenées d'eau de manière assez nette. Donc, le bis, hein, c'est clair, ce sont ces canaux d'irrigation creusés à flanc. Montagne, là on glisse un peu et on arrive, effectivement, on devine un réseau là.
dîner plus loin, on a un autre jeu d'écluse.
Eh oui.
On voit sur notre gauche l'arrivée du Bitaya.
Oui.
C'est ce bras qui arrive là, avec là, une répartition en deux branches. Et ici, nous avons l'arrivée du Bisdaya. Et les eaux doivent se séparer pour aller ensuite dans toutes les directions. C'est pour cette raison qu'il y a une sortie au début de l'ensemble. Cette sortie, elle amène les eaux vers la région de Saint-Romain-Luc. Ici, on a une écluse qui permet de séparer les eaux du Bisdaya. Et plus loin, il y a une séparation encore pour aller vers deux villages différents. Donc le Bisdaya, c'est un grand bis avec un débit régulier, un bis qui est parmi les plus volumineux en eau du Valais. Il donnait entre 500 et 400 litres seconde. Ce bis est partagé à un groupe de personnes qui font partie d'un consortage. Et les personnes ont des droits chiffrés, on appelle en seiteur.
Seiteur.
Oui, c'est tout des termes consacrés.
C'est une unité d'eau.
C'est une unité qui correspond, on dira, 5 seiteurs valent 4 heures d'arrosage avec le quart du grand bis, donc du Bisdaya. On appelle aussi le grand bis hein, chez nous. Et la notion d'heure est encore différente si c'est le jour ou la nuit, parce que 3 heures de jour équivalent à 6 heures de nuit. Voilà, ça c'est une répartition qui est où les gens ont toujours la même quantité d'eau.
Et vous avez parlé de consortage. Hein.
Ça c'est un consortage.
Alors peut-être qu'on revienne sur le sens même de consortage, voir ce que cela désigne. Vous avez dit un groupe de gens, mais qui, comment?
Alors il faut remonter aux origines, qui est au milieu du 15e siècle. Lorsqu'on a construit le bis, on a désigné un groupe de personnes pour gérer ces eaux, pour les distribuer, les organiser. En fonction des propriétés des gens et des travaux qu'ils ont effectués, ils ont fait une distribution. Donc chaque propriétaire avait droit à un certain nombre de seiteurs. Et ensuite, ces droits se sont transmis par héritage, vente, achat. Cette eau était devenue en fait une propriété de chacun des consorts, chacun des membres du consortage. Et donc c'était une nécessité que les propriétaires de terrain soient propriétaires de droits pour irriguer les mêmes terrains.
Et c'était aussi pour répondre, peut-être, on peut l'imaginer, pour répondre à des conflits sans fin qui concernaient bien sûr le partage de l'eau, donc la gestion des biens communs.
Oui, c'est bien cette raison que les textes qui parle de ce partage, dit bien que on a confié à 12 hommes probes le soin de décider au mieux de cette répartition de l'eau. Donc on n'a pas fait par hasard, on n'a pas été chercher un notaire étranger pour faire cette division. Non, c'est 12 hommes concernés par le problème qui vont se réunir et discuter de quelle manière ils vont faire cette répartition.
C'est parce qu'il y a rivalité et donc d'une interdépendance autour d'un système de ressources qu'il y a prise de conscience du fait que c'est effectivement un bien commun.
Alors ça, c'est très intéressant, Stéphane Darès, ce que vous venez de dire, parce qu'on pourrait alors faire un direct parallèle avec les grandes questions sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, etc. Sommes-nous en train justement de découvrir que c'est un bien commun ?
Oui, on est en train d'en découvrir un depuis une quinzaine d'années, c'est le climat. Le climat, effectivement, peut être abordé en termes de biens communs, collectifs, mais alors cette fois-ci, du coup, mondialisé. Et on est en train d'assister à cette découverte de la rivalité, de l'interdépendance des populations mondiales autour de cet enjeu du climat. Ça, c'est un exemple, je dirais, d'émergence de biens communs récents. Il y a un deuxième exemple, c'est la biodiversité, qui est aussi une ressource assez complexe, avec toute une série d'usagers qui se trouvent partout autour de la planète, des industries pharmaceutiques qui vont utiliser les ressources de biodiversité dans la forêt amazonienne, créent finalement un système d'interdépendance entre un secteur économique en Suisse et la forêt amazonienne. Alors une des notions tout à fait centrales qui émergent, et c'est aussi une manifestation de l'existence d'une ressource, c'est lorsqu'on commence à définir des droits d'usage pour les différents usagers. C'est-à-dire d'essayer de réglementer l'accessibilité des différents usagers à cette ressource de manière à éviter sa surexploitation. Et c'est une forme, alors là c'est des États dans le cas du climat et des organisations internationales, ce sont des agriculteurs dans le cas d'un consortage d'irrigation, évidemment ça fait une très grosse différence, mais à la fin, si vous voulez, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une même dynamique d'auto-organisation, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'ensemble des usagers d'un système de ressources se met ensemble volontairement pour mettre sur pied un arrangement.
Ce qui a beaucoup changé, c'est dans les années 60, où les paysans ont arrêté cette agriculture de montagne. Des fermes plus grandes sont nées, mais beaucoup de petits paysans ont abandonné leurs terres. Donc ça a changé un peu le système. Et depuis lors, en fait, le droit d'eau n'est plus organisé de telle manière. Le consortage continue à faire fonctionner le BIS, mais il y a des consortages d'irrigation qui s'occupent de la distribution de l'eau. Alors, le deuxième système, c'est celui du Bitaya, qui lui est encore plus ancien, puisque le premier document concernant ce BIS date de 1307. Et là, ce BIS vient de la Sionne. Et la Sionne est une rivière à débit très irrégulier. Pour cette raison, on a conçu un partage proportionnel. Chaque région, chaque village ou deux villages en même temps ont droit à un tiers, à un cinquième du BIS. On divise la quantité d'eau disponible.
D'accord.
Contrairement au BIS d'Ayen qui a une quantité d'eau régulière. C'est pour ça que je vous ai parlé de deux systèmes différents.
Mais qui fonctionnent tous deux, Armand Ducet, sous l'égide du consortage?
Non. Le consortage du BIS d'Ayen n'a rien à voir avec la distribution du Bitaya qui a été depuis très longtemps la commune. C'est communal. Et il y a un garde désigné par la commune. Et cette distribution, elle se faisait par une assemblée tous les 10 ans où les gens venaient faire part des échanges de propriétés qu'ils avaient eus, d'achats et autres, puisqu'ils ne sont plus propriétaires. Contrairement aux Bisdaïens où ils sont propriétaires d'un droit. Ici, c'est un droit communal qui divise à tous ceux qui ont des propriétés.
Ça concernait combien de personnes entre le Bitaya et le Bisdaïen?
Ça pouvait concerner environ 1000 personnes. Vraiment, tout le territoire était irrigué par un réseau complexe de petits torrents qui descendent dans la ligne de pente et ensuite des prises d'eau qui distribuent horizontalement dans les propriétés. Alors, à un moment donné, moi je remonte maintenant à ce que j'ai entendu, donc que je n'ai pas eu. À un moment donné, il y avait des procureurs, on appelait des procureurs chargés de la distribution.
Désignés par le consortage ?
Désignés par le consortage. Et je pense que c'est eux qui devaient arbitrer. Mais c'est tellement magnifique de maintenir en activité un consortage qui est 5 fois centenaire.
Oui, mais alors je vais vous piquer un peu. Je vais vous piquer au cœur, là, quand même, parce que je vous sens bien sûr attaché à cette institution. Mais la question s'impose, à quoi ça sert ?
Oui, c'est la mémoire vivante. Je crois que c'est déjà une raison suffisante pour que ça reste. Si un jour le consortage est dissous, en quelques décennies, pratiquement il n'y aura plus que des historiens qui en parleront. Tandis que tant que le consortage existe, on sait qu'il existe, on sait qu'il est là, il y a quelqu'un qui maintient la liste des droits. La liste des droits est maintenue dans un grand livre et il y a quelqu'un qui le fait actuellement, toujours de cette manière. Et peut-être qu'un jour, si notre société va mal, on aura besoin de nouveau de ça. Si de nouveau on a un manque d'eau, on va... C'est sûr qu'on aura peut-être des solutions plus modernes pour réaliser, mais peut-être pas plus efficaces que ce qu'étaient ces consortages.
On a eu toute une longue période de l'État-providence où là, on considérait que c'était l'État qui devait gérer tous ces enjeux de rivalité, de redistribution des biens, de réguler l'accès à ces ressources. Et on a eu aussi une période tout aussi importante dans laquelle, qui était d'ailleurs un peu concomitante, hein, il y avait des alternances et des conflits idéologiques assez forts, où on a considéré que c'était le marché qui devait régler tout ça. Ces deux systèmes ont aussi montré un peu leurs limites. Donc, éventuellement, aujourd'hui, on est en train de tâtonner pour trouver un système un peu alternatif qui pourrait se retrouver un peu à mi-chemin, ou en tout cas qui envisage les choses de manière différente, dans laquelle on garde effectivement un des arguments de la privatisation, c'est-à-dire l'intéressement des usagers à la ressource. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est vrai que les théories sur les droits de propriété ont quand même démontré ça. Donc l'intéressement des usagers est un des facteurs qui permet d'espérer une gestion durable de la ressource. Et en même temps, il faut quand même que cette propriété ne soit pas purement privée, exclusive, dans le sens où, à ce moment-là, avec le risque plutôt à ce moment-là que seuls les plus nantis puissent accéder aux ressources et qu'on ait une sorte d'appropriation par les grandes entreprises ou par les personnes les plus riches dans une société, et donc une recollectivisation finalement aussi de la gestion de ces ressources. Et là, on a un modèle finalement qui correspond un peu à ces deux dimensions.
Deux intérêts, on pourrait dire, aux dimensions, oui.
Deux dimensions, deux visions plutôt, de la manière de gérer les ressources. Donc c'est une question très très intéressante, mais impossible, on ne peut pas y répondre pour l'instant, mais on peut faire des hypothèses sur ce qui est en train de se passer. Peut-être on est à un tournant, effectivement, de la manière d'envisager les choses.
D'accord. Et on voit d'ailleurs Teurbel et Embd. Embd, c'est un autre village, bien sûr.
Oui, ça, c'est un autre village. On ne va pas le rencontrer parce qu'on devrait aller à gauche par un tunnel pour y arriver à Embd. Mais il est en dessous de Teurbel.
Thank you.
Vous êtes dans Babylone, le rendez-vous des savoirs et des cultures sur Espace 2. Babylone sur la route du village haut-valaisan de Torbel, au-dessus de la vallée de Sas, un village étudié par le prix Nobel d'économie Olinor Ostrom, étudié pour sa gestion des biens communs. On repart donc direction Torbel.
Et en 1950, il y avait 700 habitants encore à Torbel. Et aujourd'hui, il y a 510 autour de là.
Mais donc, ça veut dire que les gens, comme bah, justement vous peut-être, Armin Karlen et sa famille, donc vous, Ruth, bien sûr, les gens petit à petit sont partis alors?
Oui, c'est ça. Parce que c'était quand même avec le travail, les gens, ils devaient chercher du travail quelque part ailleurs. Et mon père, comme ça, il est descendu à Fischb parce qu'il a travaillé à la Lonza et il n'a pas pu faire le chemin tous les jours. Alors, moi, je suis née à Fischb et on est monté en vacances toujours ici en haut. C'est pour expliquer ici, c'est déjà la commune de Torbel qui a commencé. Alors d'accord. Ça, c'est un Mayen.
Ah d'accord, très bien. Celui-là. Voilà, et on voit un arrêt qui s'appelle Brunnen. C'est l'arrêt du car, voilà, alors on va sortir. C'est magnifique ici.
Torbel, das Dorf Torbel, besteht aus drei Weiler. Und dieser Weiler, das ist Brunnen. Und nachher Feld, das ist da hinten. Und Burgen. Entsprechend hat man auch das Wappen. Das Feld.
Feld ist oben. Aber soll ich noch wieder übersetzen?
Ja, ja.
Alors, il y a Torbel, il y a Tram Mayen, et celui-là ici, c'est Brunnen. C'est les gens avec l'agriculture, ils avaient les Mayens où ils devaient aller avec les vaches, alors ils étaient des semi-nomades, si on veut. Alors, il y a ces Mayens ici, après il y a encore l'alpage aussi, ou l'avant-alpage. Alors ici, ils sont venus en automne. Plus tard, on va voir Burgen. Là, c'est plutôt le printemps.
D'accord.
Alors, vers la fin du printemps, ils sont montés un peu plus haut, en avant alpage. Et après, pendant l'été, c'était les vaches qui sont venues, qui sont allées en haut à l'Alpe. Mon père, il a expliqué hier que les vaches qu'on avait en hiver, en été, chaque habitant, il a eu tant de place sur l'Alpe qu'il avait des vaches pendant l'hiver dans son étable.
Vous n'avez pas du tout connu cette vie,
non, non, pas du tout. Hein. Moi, je suis née à Viège, j'ai grandi à Viège. C'est pendant les vacances qu'on est monté ici. On a des champs. Mon père, il a des champs et en été, on a fait le foin. Mais c'était pour nous. Oui. On n'avait pas de vaches, alors le foin, après, on l'a vendu aux gens qui ont des vaches. Mais on a fait le foin chaque été.
Mais vous-même, vous n'avez jamais participé, par exemple, à un travail collectif ou un travail en commun?
Non, parce que ça, c'est les hommes bourgeois, alors ça, c'est les gens qui habitent à Torbel. Mon père, il n'a plus non plus aidé là-bas, parce que nous habitons à Viège, on n'est pas de Torbel.
C'est intéressant. Vous dites, on n'est pas de Torbel.
On est de Torbel, mais mon père, il ne peut pas aller là boire le vin de la commune. Ils ont eu une rencontre une fois par an, je ne sais pas combien de fois, où tous les hommes, ils se rencontrent, ils jouent leur yass et ils boivent le vin de la commune. Et mon père, il n'était jamais invité parce que lui, il paye ses impôts à Viège, pas à Torbel.
Aber heute ist auch eine, sagen wir, freundliche, wir wissen, ob ihr das kennt. Oder ein Neujahr oder so, wird dann, gibt es ein Aperitif und da können alle dabei sein. Ja,
aujourd'hui, ça a quand même changé. Maintenant, il y a par exemple Fête de Dieu et Nouvel An. Ils donnent aussi le vin de la commune et là, c'est chacun qui peut, qui reçoit un
d'accord.
Verre.
D'accord, donc on pourrait dire que les règles se sont assouplies.
Oui, c'est ça.
C'est intéressant.
Ils se sont assouplis, ça, oui.
C'est intéressant.
Mais autrefois, c'était pas possible.
Mais alors vous, en tant que femme, vous me disiez tout à l'heure quelque chose, Ruth Karlen.
Seit wann kennen die Frauen einen Burgertruch?
Das weiß ich nicht. Das ist schon. Das ist ja die Zeit, dass das Stimmrecht ist gewesen.
Vorher nicht. Ja. C'est depuis qu'il y a.
Zum Beispiel früher haben auch, wenn Frau und Leichnam ist, das ist ja ein Umzug, weißt, das ist ja eine Prozession gewesen. Und dann haben sogar Kinder im Schulhaus etwas zu essen und etwas zu trinken bekommen. Früher, die mitgemacht haben, aber nicht nur die mitgemacht haben.
Wende?
Ja, schon. zu meiner Zeit, jung. Mhm. 50er, 40er. Ja, die sind nicht gegangen. Die sind erst später. Also.
Depuis que les femmes peuvent aussi aller voter,
ah oui,
c'est
oui,
depuis
oui,
là qu'ils peuvent aller. Mais avant, non.
Avant, non.
Non, non.
Ah oui. C'est
1971, oui.
1971.
Bah, avant, ils ne pouvaient pas. Hein.
Armand Ducet, la gestion de l'eau est une affaire d'hommes. Est-ce qu'historiquement, effectivement, c'est le cas?
Oui, là, on pourrait provoquer des réactions violentes.
C'est surtout pour comprendre. Hein.
Parce que, dans les consortages d'alpage comme dans le consortage du bis, la femme n'avait aucun droit. Et souvent dans la transmission, c'était le grand problème pour les veuves. Si elles n'avaient pas des descendants mâles, elles perdaient à peu près leurs droits. Je ne sais pas exactement dans le détail.
Mais ça veut dire que la famille elle-même, on peut imaginer le cas de figure, voilà, l'homme de madame meurt, oui. Donc madame reste avec 10 enfants, hein, oui. Famille nombreuse, oui. Elle perd ses droits d'eau.
Elle les perd, mais ses enfants masculins, pas. Les femmes étant supposées qu'elles allaient retrouver des droits en se mariant ailleurs.
D'accord, donc la famille ne perd pas quand même les droits. Mais si elle n'avait, on peut imaginer
si
le cas.
Filles, voilà. Alors elle perdait les droits.
Mais comment ils vivaient alors?
Ça veut dire qu'elle ne les perdait pas d'une manière effective au moment voulu, mais elle ne pouvait plus les transmettre. Elle les perdait à sa mort, ces droits. Et dans les alpages. Pratiquement, ces règlements sont encore en fonction, seulement ils ne sont plus appliqués. Mais jusqu'à une décision d'un tribunal fédéral, il y a nos consortages, tant qu'ils ne sont pas modifiés, ignorent les droits des femmes.
Netting, il constate que presque 90% des mariages dans ce même laps de temps, c'est-à-dire 17e jusqu'au 20e siècle, presque 90% des mariages se sont faits à l'intérieur du village, de la commune.
Thomas Antonietti.
C'est-à-dire que ce droit de succession ou le système d'héritage, donc à part égale, chaque enfant a la même part. Quantitativement aussi, mais aussi qualitativement, à obliger les gens de se marier entre eux. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas marier un garçon de village voisin ou même d'un autre pays, mais on était bien obligé, vu le morcellement des biens, de se marier à l'intérieur du village. Comme ça, au moins, il y a deux parts d'héritage qu'on peut recomposer pour créer
un domaine viable aussi, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est des contraintes qui étaient données. C'est même chose, Netting, il constate que pour le 18e et 19e siècle, il n'y a pas une seule personne qui est venue à Turbel et qui est restée là, qui est devenue un bourgeois. Donc la bourgeoisie est un système très fermé. C'était pas une xénophobie, mais c'était aussi une obligation économique.
Ici, ces champs, autrefois, on a surtout semé la seigle. Ici, c'est le seigle qui poussait. On parle souvent du blé, mais c'est les gens, quand on parle comme ça, on parle du blé, mais c'est très peu du blé qui a poussé, c'était surtout le seigle.
Alors là où on arrive, c'est tout à fait impressionnant. Parce que alors là, on a vraiment l'impression de la montagne qui fait comme un précipice, tellement c'est raide, avec au-dessus des rochers, des petits chalets accrochés en bois.
Ouais.
C'est vraiment...
Ça, c'est le Mayen Burgen. Ça, c'est un autre
Burgen.
Mayen.
Voilà, un des trois Mayens, alors.
Oui.
Voilà. Et voilà, on a vu le panneau Teurbel, hein.
Nous pouvons, nous deux, on peut monter ici vers le, la maison où ils ont fait le pain.
D'accord, bien sûr.
Et mon père, il va chercher la clé.
D'accord. C'est superbe, dis donc. Et voilà, on est arrivé à Teurbel, hein, Rietkerken. C'est beau parce que depuis ici, ça monte en pente raide. C'est tout des chalets en bois.
Also, das ganze Dorf ist auf Felsen gebaut. Alles.
Tout le village, il est monté sur le rocher. On n'a pas mis une maison là où on a pu cultiver. On a mis que sur la pierre où ça qu'on n'a pas pu cultiver, on a mis les maisons. C'est pour ça que c'est raide comme ça aussi.
Là, on va voir le four à pain alors.
Oui.
D'accord.
Il y avait plusieurs dans le village et les gens, ils ont fait toutes les deux à trois mois, ils ont fait le pain. Alors ils ont pu utiliser cette maison commune. C'était quand même ça, c'était une maison commune.
Ça, c'était une maison commune.
Oui, commune, oui. Pour des quartiers. Alors il y avait des quartiers qui se sont...
Ah, il y avait des quartiers.
Oui, ici, il y a plusieurs quartiers.
Donc ça veut dire qu'il y avait... Ah, il y a plusieurs quartiers.
Ou plusieurs quartiers. Alors,
ah bon ?
Oui, oui.
Ça, et pourtant,
c'est petit, mais...
Oui. C'est vraiment très beau, hein.
Oui, c'est ensemble encore.
Ah oui, c'est vraiment ensemble. Hein.
Et mon père, il dit quand eux, ils ont encore, quand ils étaient jeunes, ils ont dû marcher loin dans les forêts pour trouver un peu du bois par terre pour pouvoir faire le feu pour cuisiner ou pour chauffer. Aujourd'hui, on le trouve partout parce qu'on avait le droit que prendre le bois qui était tombé par terre. On n'a pas pu couper des arbres comme ça.
Aujourd'hui, c'est tout de même difficile de trouver un modèle économique qui permette aux gens de rester dans les villages. Parce que comme vous l'avez expliqué, Rietkerken, ben voilà, les jeunes, ils vont travailler à Viège, disons à Visp, et puis ils remontent éventuellement ici parce qu'ils ont une maison, ils sont aussi attachés à, à leur tradition, et ça se comprend, mais disons, il y a aujourd'hui pas vraiment de modèle économique qui permettrait à quelqu'un de vivre tout le temps ici. C'est compliqué, ça.
Oui, parce qu'il y a tout problème. Par exemple, le petit magasin du village, il n'est pas tellement rentable parce qu'ils n'ont pas les mêmes prix que les grands magasins en ville. Alors, beaucoup de gens, ils achètent toutes leurs choses en bas. Et ils viennent vivre en haut. Et le magasin, il ne peut plus...
Il ne peut plus tourner. Il ne peut plus vivre.
Tourner, ouais. La même chose avec la poste. Ils ont fermé la poste ici aussi. Alors, la poste, elle monte de Stalden. Elles ont fermé. Il y a peut-être, j'ai un cousin qui a installé ici une petite usine où ils produisent maintenant, c'est avec des anciennes couvertures de l'armée suisse. Ils font des sacs et des choses comme ça. Alors ça, il a installé ici, mais je crois que c'est un des seuls. Après quelques restaurants, deux ou trois. Mais c'est un peu tout.
Das ist Gallquartier, wie sind Sie da gekommen? Bitte, zeigen Sie doch.
Das ist die Spurge.
Ça, c'était le four pour le village, pour les communes. Ça,
d'accord.
C'était pour la... Das ist also die Kommune, also ja, c'est die Gemeinde. Ja, Il y a un four privé et un four commun. Et ça, c'était le four commun.
Und hier, jeder kann noch backen, wo alle hinten können backen. Mm-hmm. Also, aber kein Bäcker. Mm-hmm.
Il y avait pas un boulanger. C'est toutes les gens qui ont pu venir faire le pain ici, mais ils ont dû apporter leurs choses et ils ont fait ici eux-mêmes. Ou ils ont donné les choses à quelqu'un qui a su le faire. Mais il n'y avait pas un boulanger qui était ici.
D'accord. Et est-ce que les gens étaient obligés toujours de participer à ces travaux communs?
Sind die Leute hier eigentlich gezwungen gewesen, an diesen allgemeinen Arbeiten mitzumachen.
Ja, ja. Die natürlich müssen Steuern zahlen. Mhm. Und die sind sehr wenig. Mhm. Und statt Steuern hat er unter Umständen mal Arbeit leisten. Mhm. Sagen wir, heute haben wir, Gemeinsarbeiter. Und früher hat man einfach, jeder hat, je nach Vermögen, hat er müssen arbeiten. In den Wegen arbeiten, überall arbeiten.
Oui, c'était obligatoire. On payait moins de taxes, mais on a dû donner son main d'œuvre pour la commune. D'accord. Alors il fallait aussi travailler sur les chemins. Ou, si quelqu'un avait plus de vaches, il a dû travailler un peu plus que celui-là qui avait moins de vaches. S'il avait plus de propriété, il a dû travailler plus. Un peu comme aujourd'hui, si on a plus, on doit payer plus de taxes.
Mais il y a une question qui se pose, c'est que quand même, bon, toutes les régions de Suisse, assez rapidement, elles sont rentrées avec le début du XXe siècle dans le système des impôts, des taxes, etc. Maintenant, est-ce qu'il était possible pour un village comme Torbel de continuer à utiliser ces systèmes qui faisaient office de taxes sans peut-être, je sais pas, sans payer des impôts communaux ou... Parce qu'il y a quand même comme deux systèmes. Il y a le système cantonal ou cantonal et puis le système du village. Comment ça fonctionnait, ça?
Das haben wir lange gehabt, noch bis in den 70er Jahren oder 80er Jahren. Und nachher haben wir die Gemeindearbeiter angestellt. Also die ganzen Wege oder die Wasserleiter, also die Zone, all das hat man praktisch, hat einer können abverdienen, also die Steuern hat er können abverdienen mit Arbeiten.
Ja, aber die anderen haben Steuern gezahlt, die nicht mehr geschafft haben.
Selbstverständlich.
Und die Kantonsteuern hast du gleich extra müssen zahlen.
Ja, das schon. Das ist...
Oui, ça existait quand même les deux, jusqu'en 1970, 1980, on n'avait pas des employés de la commune. Maintenant, il y a des employés de la commune.
Jusqu'en 1980, alors?
Oui, c'est ça, 1970-1980. Parce qu'autrefois, les choses communes, c'est les chemins dans le village, ou aussi les ruisseaux.
Oui, les ruisseaux.
Pour arroser les champs.
Ah oui, les bises,
voilà, c'est ça. Alors, on a pu encore choisir pendant un moment, on a pu pas payer des taxes et travailler un peu plus dans ces choses-là. Et lui, il trouve c'est dommage aujourd'hui, à une côté, ça a perdu. Quand on a maintenant des employés de la commune, ceux-là, ils sont payés. Alors les habitants, ils ne font plus rien. Ils disent, il y a un qui doit le faire parce qu'il est payé. Alors autrefois, quand on a vu une pierre ou quelque chose qui n'était pas bien sur le chemin, on l'a mis plus vite à côté qu'aujourd'hui, on dit, oui, c'est l'employé de la commune qui doit venir le faire.
À partir de quel âge les jeunes hommes... Ou même les jeunes femmes. Est-ce que les jeunes femmes d'ailleurs travaillaient aussi pour les biens communaux?
Frauen für die Gemeinschaft.
Ja, sagen wir, wenn wir ins Gemeinwerk kommen wieder, haben Frauen auch können gehen. Das ist genau gleich gewesen. Auf Gemeinwerk, also wenn wir einfach müssen schaffen, Tag schaffen für die Steuern abzahlen, dann Frauen auch können gehen. Und bis, wenn man sich vorstellt, bis 1950, 60 haben wir für einen Tag geschaffen, 3 Franken angerechnet.
Alors oui, les femmes, elles ont travaillé aussi là-dedans. Jusqu'en 1950, un jour de travail dans la commune a été 3 francs de moins de taxes. C'est pour 3 francs.
C'est magnifique ce lieu.
Ouais.
Thomas Antonietti, j'ai envie d'aborder la question de la dimension politique. Est-ce que pour autant, les gens se mettent, en gérant en commun les biens, est-ce qu'ils se mettent à produire une pensée politique, un système d'organisation non plus sociale mais politique, ou finalement, cette dimension politique est inexistante?
Bien sûr, il y a une réflexion politique dans tout cela, mais il ne faut pas croire que si ces gens... On gérait, était obligé de gérer pas mal de biens communs. Ces systèmes économiques bien se sont développés à travers les siècles. Et les gens qui les ont développés, ce n'étaient pas des économes ou des gens qui voulaient un meilleur monde. Ces gens n'étaient pas communistes dans le sens de propriété commune.
C'était pas des collectivistes.
C'était pas des collectivistes. Là où ils n'ont pas eu d'alternative, là où ils n'ont pas eu le choix, ils ont appliqué ce système d'entraide, ce système communautaire.
Alors, est-ce que là, il y a justement un point commun avec l'époque actuelle, Thomas Antonietti?
Pour quelqu'un qui vit à Teurbel au XVIIIe, XIXe siècle, son monde, c'est tout d'abord Teurbel. Et puis aujourd'hui, le monde, pas physiquement, mais mentalement, est devenu plus grand. Et je pense qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'alternative. Là, peut-être, on peut apprendre quelque chose aussi des gens de Teurbel étudiés par Netting. Ils ont dit, si ma famille veut bien poursuivre ce chemin, si ma famille veut bien vivre aussi dans une future génération, elle est bien obligée de trouver un mode de vie avec les autres familles, au niveau justement des biens communs, etc. Donc, dans ce sens-là, on peut apprendre, parce qu'on est obligé, donc c'est pas une question d'une orientation idéologique ou d'une préférence politique, mais il faut constater comment le monde il se présente, et après il faut agir et réagir, ce que les gens de Teurbel ont fait avec un certain succès.
Et ça, c'est très bien. Ça, c'est un article qui a été écrit en
2009.
Non. Oui, ça, c'est pour aussi. C'est un Suisse allemand.
D'accord.
Qui a écrit ça dans le Tagesanzeiger. Ça, c'est sur. Ouais. Ça, c'est aussi à cause de. Gelungen et Umweltpolitik. Oui, c'est aussi parce qu'il y a cette Elinor qui a reçu le prix Nobel. Ils ont écrit plus des articles.
Ça fait plaisir à votre papa, ça, que tout à coup, Teurbel.
Oui. Je pense, Carl. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est quand même aussi, si ça vient dans le journal, après aussi ça que eux ils font, que lui il fait pour garder ses traditions, c'est...
une reconnaissance.
Oui, c'est ça, la reconnaissance, voilà.
Eh bien moi j'ai l'impression d'avoir voyagé très loin.
Oui. Moi ça m'est venu beaucoup plus, oui, quand j'étais... en Afrique, que j'ai vu, mais on a vécu des choses un peu pareilles, hein. Il n'y a pas si longtemps quand même, qu'on a vu ça chez nous encore.
C'est en Afrique que vous avez repensé à votre village?
Oui, 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 vraiment. Quand j'ai vu les latrines et toutes ces choses-là, qu'il fallait chercher l'eau à la fontaine, j'ai dit, mais en 1970, moi, j'ai vécu ça aussi, et c'était en plein milieu de la Suisse.
Comme quoi, on a besoin de faire des fois des grands détours. Hein.
C'est ça. Vraiment.
Ich halte.
Ah oui.
Jetzt.
Merci beaucoup. Hein.
Thank you.
de Torbel à l'Afrique, en suivant comme ça ce sujet des biens communs, on se rend compte, Jean-Marc Falcombello, que de nombreuses perspectives, bien sûr, s'ouvrent non seulement en termes d'alternatives économiques, tout simplement, mais aussi pour la biodiversité, pour le climat, on l'a évoqué.
Effectivement, et des sujets d'actualité brûlants, en rajoutant peut-être d'autres défis encore et qui touchent à des biens communs immatériels cette fois-ci. Et là, je pense à Internet, par exemple, où circule une connaissance commune qu'il faudra bien pouvoir administrer en réglant la question des droits d'utilisation et de propriété, afin de réguler ces nouveaux espaces. Mais la liste est longue, ça va des structures industrielles au car sharing, par exemple.
Donc là, par exemple, on parle de structures industrielles, on serait plutôt sur des modèles d'autogestion. Quelle serait la différence ou la distinction à faire ?
Écoutez, oui, parce qu'il y a effectivement une notion de bien commun dans l'autogestion, mais non, parce qu'il n'est pas question ici d'idéologie, alors que l'autogestion en traite. Ici, il serait plus approprié de parler d'auto-organisation pour faire face, surtout, à la nécessité de survivre.
Merci à Jean-Marc Falcombello. Dans l'équipe de Babylone, il y avait également Didier Rossa pour la réalisation du reportage, Bruno Serima en régie et Nicole Corpato en charge des pages internet babylone.rsr.ch. Demain, on reste en Valais, on change de Valais. Laurence Di Félix reçoit l'ethnologue Bernard Créta qui co-signe Les Anniviards, Barbares et Civilisés.
Babylone avec le temps.
Dans un instant, vous retrouvez Charles Sigel pour l'humeur vagabonde. Espace 2, 10h.